How are you still not doing anything? How are you still accepting everything that is happening to you? This is the first time ever it's different, Karim. This is the first time in Tarikh Lebanon that I witnessed.
Pour une petite expérience personnelle, quand je suis arrivée ici, je suis arrivée avec mon fils. Et malheureusement, la première approche qu'il a fait, c'est avec des gens qu'il ne fallait pas. Et je ne connaissais personne, donc j'étais faite muette dans mon silence, dans mon malheur. Jusqu'à ce que l'irréparable arrive, hein, que la bêtise soit faite. Et je me disais toujours, mais vers qui je vais pouvoir me retourner? Quand on se retourne vers l'État, on nous dit, mais il est majeur, on ne peut rien faire si ce n'est le punir. Pour ce qu'il a fait, même s'il est encore adolescent, tout en étant majeur en fait. Il avait un mal-être qu'on ne comprenait pas. Et quand j'ai découvert Isar Attitude, je suis bénévole dans tout ce qui est scolaire, dans d'autres activités quand je le peux. Je me suis dit, mais si j'ai la chance en fait, autant que maman, d'avoir vécu ça toute seule, de permettre à une maman de se confier, et surtout ne serait-ce que de sauver un dixième de ses enfants du décrochage scolaire, leur donner l'envie, c'est vraiment important et je pense qu'il est très important aussi que, au niveau de l'État, les moyens soient mis en œuvre. Parce qu'une association, c'est très bien, des bénévoles, c'est très bien, mais on a besoin d'appui, on a besoin de réel soutien en fait. Quand on se retourne, qu'on ne nous ferme pas les portes, qu'on nous les ouvre, qu'on nous écoute, à chacun son vécu, à chacun son expérience, et qu'on puisse se dire enfin. Je ne suis pas toute seule, même si c'est honteux, parce qu'autant que parents, on se sent honteux. On se dit, mais mince, j'ai loupé quelque chose avec mon gosse. C'est peut-être moi qui n'ai pas fait bien les choses, et on est encore plus dans le mal que l'enfant lui-même. Mais qui peut réconforter l'autre, en fait? Si moi, j'écoute mon fils, je me dis, c'est de ma faute. Si lui, il m'écoute, il se dit, c'est de la faute que maman, elle n'est pas bien. Et il faut vraiment des intermédiaires puissants, capables, en fait, de rétablir le juste équilibre entre l'enfant et les parents. Je trouve que c'est très très important de l'avoir vécu et je m'en suis par chance sortie quand même. Mais je me dis que, comme Lisa disait, à chacun on peut apporter quelque chose, mais l'État doit être là et nous soutenir aussi, quoi. Je pense qu'ils ont une très grande part de responsabilité. On a énormément de jeunes sur les îles qui sont des très très bons gamins, mais ils ne savent pas quoi faire de leur temps. Et une mauvaise rencontre, c'est vite fait. Des fois, c'est des gens qui ne sont même pas du quartier. Ce qui s'est passé avec le mien. Et voilà, on voit son enfant partir, mais malheureusement, comment le retenir? Voilà, c'est la grande question de la plupart des parents qui, des fois, sont menés à se murer dans le silence par honte, par peur et par pas de soutien, en fait. Pas, savent pas où aller. Voilà. Là où on toque, quand l'enfant est mineur, ça... Je ne dirais pas que ça apporte des solutions, parce que ça n'en apporte pas plus. Hein. On va nous dire, on va lui faire ça, on va lui parler. Mais quand il est majeur, c'est une catastrophe, en fait. Parce qu'il est majeur, les responsabilités, c'est à lui de les assumer. Mais quand il n'est pas capable de reconnaître ce qui est bien et ce qui n'est pas bien pour lui, je ne sais pas comment l'enfant peut prendre sa responsabilité.
On veut des moyens qui soient bienveillants et empathiques. Hein. On ne veut pas des moyens qui soient dans le contrôle, parce que là, ils sont en train de mettre les moyens. Mais mettre des moyens dans le contrôle et dans la sanction. C'est pas... C'est pas là qu'on veut. Il nous faut, comme Jeda le disait,
de l'écoute
et de l'accompagnement.
Oui, de l'accompagnement et les moyens qu'en fait l'enfant soit occupé sans s'en rendre compte par un loisir qui lui plaît. En fait, il s'en rend compte, il est là et pendant qu'il a cette part de loisir, qu'il a cette part d'accompagnement, il n'est pas dans la rue à faire n'importe quoi. Et ça, c'est super important.
Qu'une société aujourd'hui, qu'on s'y sente bien, on a besoin de toutes les composantes. On ne peut pas juste mettre ça sur le dos de la population ou des grands frères, comme vous disiez. C'est aussi du plus haut, donc de l'État jusqu'à l'enfant aussi, quoi. C'est, tout à l'heure, on parlait de solidarité, c'est ça. Pour faire vivre un enfant dans des conditions convenables, il faut que tout le village soit là. Je pense qu'aujourd'hui... Le plus important, c'est ça, c'est qu'on soit tous unis pour une même cause.
Et on a parfois tendance à culpabiliser les parents.
Exactement.
Et aucun parent dans le monde, en fait, je suppose, ne veut du mal à son enfant. Ne veut que son enfant fasse n'importe quoi ou qu'il ne réussisse pas dans la vie. Donc, les parents, quand ils sont dépassés, ils sont dépassés. Quand un enfant est sorti, il a découvert ce qu'il a découvert, un parent soit... D'une façon ou d'une autre, la solution, c'est qu'il perd son enfant. S'il se montre contre lui, y a plus de relation, y a quelque chose qui se casse, donc il n'a plus l'emprise. Et s'il le laisse faire, de toute façon, voilà, l'inévitable arrive. Donc les parents, ils ont un rôle à jouer, mais malheureusement très limité parfois, par la société, par ce qui se passe en ce moment. Et je pense que le parent est aussi victime que l'enfant, en fait.
Exactement. On ne naît pas parent, on le devient. Donc c'est des choses qu'on ne connaît pas et qu'on apprend sur le tas en même temps avec notre enfant. Et des fois, oui, en effet, il y a des loupés, on se trompe. Mais le parent, comme tu disais, il voudrait toujours le bien pour son enfant. Mais quand on ne sait pas faire ou quand la vie, malheureusement, ne nous laisse pas le choix et nous oblige à emprunter certains chemins. Du coup, seul, c'est compliqué. Et je pense que la vocation de l'association aussi, c'est ça. C'est comment accompagner les parents dans ce rôle-là, dans le repère qu'il peut être pour son enfant. Comment il peut accompagner son enfant, l'adulte qui va devenir. Et comment ne pas culpabiliser aussi le parent. Parce que c'est pas parce qu'on se trompe des fois qu'on est forcément un mauvais parent. Et malheureusement, aujourd'hui, on pointe beaucoup les parents sur ça, et notamment dans les quartiers, sur où sont les parents, vous tenez pas vos enfants, il n'y a pas d'éducation. Mais c'est bien plus que ça, en fait. C'est bien plus que ça. Un parent, il soutient, il accompagne son enfant. Mais on ne peut pas tout lui mettre sur le dos. Et parfois, il ne peut pas faire tout seul. Parce que justement, comme tu disais, Dida, quand il a plein d'interrogations et des moments où des choses qu'il ne sait pas forcément sur son enfant, ben, comment on peut l'accompagner? Et nous, aujourd'hui, c'est ce qu'on essaye de proposer dans l'accompagnement à la parentalité, c'est d'écouter les parents, de pouvoir, ne serait-ce que juste d'être une personne ressource qui puisse recevoir tout ce que vit un parent ou tout ce que vit l'enfant d'ailleurs, et comment, du coup, l'accompagner à trouver des outils, des solutions pour améliorer la relation avec son enfant, pour venir réparer une blessure ou faire, ne serait-ce que juste faire de lui-même écouter son enfant. Voilà.
Oui, et puis il faut lier tout ça aussi avec le contexte de la société en France. C'est qu'on demande aux parents d'accompagner, d'être toujours plus derrière leurs enfants. Et de l'autre côté, on a des gens qui ont des emplois précaires, qui travaillent, nous on a des familles, ils commencent à 6h du matin à l'autre bout de Toulouse, donc lever 5h. Ils partent pour bosser 3h. À 9h, ils ont fini. Ils rebossent à midi. Pour 4 heures et après ils rebossent le soir. Donc en fait, on a des familles, elles passent leur temps, des mamans notamment, mais qui passent leur temps à téléphoner à leurs enfants. Est-ce que tu es allé à l'école? Est-ce que tu t'es levé? Mais en fait, elles peuvent pas être là et pour assurer des moyens, des revenus à 800 euros. Hein. Je parle de petits revenus. Derrière, bah, du coup, petits revenus, ça paye juste le loyer et la nourriture. Du coup, compliqué de faire des activités sur le week-end. Et puis en fait, c'est des boulots qui sont tellement épuisants. Les gens, ils sont physiquement éclatés, ils ont mal au dos, ils ont pas d'énergie. Mentalement, c'est dur. C'est des boulots précaires qui, potentiellement, des petits CDD ou de l'intérim. Donc, en fait, on sait jamais si le mois prochain, on aura du travail. Donc, en fait, c'est aussi ça. C'est qu'il faut recontextualiser dans un ensemble de sociétés. La France, c'est de plus en plus compliqué. La précarité sociale, elle est énorme. Les ISAR, c'est 41% de pauvreté. Et en fait, c'est important de le reposer. Donnons aussi les moyens financiers aux personnes pour qu'après, elles aient la capacité, le temps, déjà, et aussi la capacité financière d'aider et d'accompagner leurs enfants.
Entre les bâtiments qui s'écroulent et les cafards dans les apparts, numéro d'écrou et les calages qui parlent grave, des têtes jusqu'au cou, les coups de pression du courrier, les coups de blues des parents qui se font avaler la carte. Tous ces gens, je les aime. Je viens des HLM, mon ADN n'a pas subi d'OGM. Enfant de culture africaine, ma SACEM sert plus à régler les problèmes que m'acheter une BM, que tu comprennes.
Il est important aussi de souligner quand même la barrière de la langue. Je trouve que c'est un point très, très important dans ce genre d'association et en relation avec la population, on a malheureusement la barrière de la langue. Quand vous avez un enfant qui maîtrise très bien le français, mais que les parents ne le maîtrisent pas du tout, on peut raconter tout ce qu'on veut. Voilà, les parents, en fait, n'arrivent pas à suivre la scolarité parce qu'eux-mêmes ne savent pas lire. Et je crois que c'est un point super important.
Combien comme moi ont dû faire plus que les autres pour décrocher la lune, ont dû grimper plus que les autres pour atteindre le rivage, ont dû nager plus que les autres pour mettre KO l'adversité, ont dû frapper plus que les autres. Combien d'a priori nous ont jugé plus que les autres? Combien d'amalgames on a subi plus que les autres? Combien de fois on a dû prouver plus que les autres? Combien de fois la paix j'ai dû la chanter plus que les autres?
Je suis pas venu faire des discours victimaires ou faire le révolutionnaire. Je préfère un fier père-mère, les mettre au vert, permettre aux petits frères d'affûter leur flair et d'être grand en voyageant comme Gulliver. Car terre a mis nos valeurs à l'envers. Ça jour ou là en insultant des mères, ado vénère, le poing en l'air, plus fini comme Homer, sur le canapé, le ventre à l'air. Merde, on n'est pas condamné à perdre, on s'est aimé, on n'est pas condamné à faire la guerre. Même si les médias nous poussent à la faire, à nous de ne pas tomber dans les pièges qui font jubiler la fachosphère. Il est différent et alors qu'est-ce que ça peut faire? Le cachère faut le faire sur ses idées entassées de poussière. Car ce temps-ci on peut allumer 10 fois Las Vegas avec l'électricité dans l'air.
Et puis je pense que donner confiance, souvent notre société elle casse parce que bah, tu citais le racisme, je parlais d'islamophobie, ambiance de plus en plus décomplexée sur nos plateaux télé, par nos dirigeants politiques. Ils parlent des musulmans de manière négative constamment, ils parlent de l'islam de manière négative comme si on était les pires des personnes, et du coup, en fait, du racisme ambiant, des discriminations racistes à l'embauche, au logement, des discriminations aussi sexistes, ça dans l'ensemble de la société. Et en fait, c'est important de aussi donner confiance aux gens, parce qu'ils vivent ça. On a des jeunes qui vivent cette ambiance délétère qu'il y a en France, cette ambiance difficile. Et du coup, en fait, ça fait pas que juste des replis sur soi, ça fait aussi des personnes qui sont brisées en termes d'estime d'eux-mêmes. Ça devrait pas être tolérable, on devrait pas l'accepter. En fait, mon premier mot, c'était l'égalité, parce que c'est ça, c'est qu'on ne peut pas accepter que des personnes soient traitées de manière inégalitaire de partout dans le monde, mais à côté de nous encore moins. Et ça me fait rebondir à un projet qu'on a qui est... Il y a des adhérentes qui font des cours collectifs de code de la route. Karima en fait partie, elle est en face de moi. Et Karima, par exemple, a le permis. J'ai appris ça. Et Karima a le permis, mais du coup, elle fait partie quand même des cours collectifs de code de la route. On va faire des cours de conduite collective aussi pour s'entraider et être solidaire.
Ça va venir. Bientôt, ça va venir. On va travailler sur ça.
Et toi, tu fais ces cours-là parce que c'est plus pour la confiance en toi.
Voilà, exactement, oui. C'est-à-dire être derrière le volant, il faut maîtriser bien ça. Il faut travailler là-dessus. Et ça va venir. On va faire des efforts.
Et du coup, c'est ça la force aussi d'Isar Attitude, c'est que les femmes, elles sont là, elles s'organisent ensemble.
Elles sont motivées.
Voilà.
Ouais. Puis...
Et vous créez ensemble d'une idée, vous partez ensemble sur une intelligence collective qui permet après de mettre en place, par exemple, ce projet Code de la route et de vous soutenir.
Oui, c'est très important. Ouais. Il faut s'entraider, il faut se réunir. Et l'union fait la force.
Exactement.
Il faut avancer. Et il faut travailler là-dessus.
T'as raison, l'union fait la force. Du coup, bon, on fait un petit un coucou à Marnia qui a motivé sur le projet.
Ah oui, c'est une bonne idée ça.
Puis surtout, j'ai remarqué moi dans ce groupe, c'est que vous osez poser des questions entre vous. Vous osez essayer de trouver des solutions ensemble, chose qui était plus compliquée pour vous dans une auto-école lambda, on va dire. C'est qu'aujourd'hui, ce que disait Lisa, du coup, de par toutes ces discriminations-là, on ne se sent pas à l'aise et légitime, ne serait-ce que là, en auto-école, à poser des questions devant tout le groupe et montrer peut-être une faille qu'on ne comprend pas, ou peut-être qu'on n'a pas confiance en nous sur certaines choses. Alors que là, aujourd'hui, ce projet-là, on est tout ensemble, et puis on ose dire on ne sait pas, et on ose donner la bonne réponse et aider l'autre aussi. Quoi.
Ah oui.
Et je trouve que c'est ce qui est important pour lutter contre toutes ces discriminations.
Avoir la volonté d'avancer pour aller jusqu'au bout.
Exactement. Il y a une des personnes qui est dans le groupe et qui me disait qu'il avait passé le permis à plusieurs reprises et qu'il n'avait pas eu. Et elle sentait énormément que son voile elle lui avait porté préjudice par rapport à l'inspecteur. Par rapport à l'inspecteur, et parce qu'il l'a traité du coup inférieurement, parce qu'il se disait bon, elle sait pas parler français ou elle sait pas faire ci ou ça, alors que pas du tout, en fait elle est née en France, elle a grandi en France, c'est juste qu'elle porte un voile. Et elle m'expliquait que parfois oui, elle se sentait rabaissée et que du coup ça jouait énormément sur l'estime qu'elle avait d'elle-même, et puis on tombe vite dans la peur, le stress, et c'est ce qui est une des raisons de l'échec à l'obtention du permis.
Ouais.
Donc on peut voir que ça touche tous les niveaux, hein. Pas que du professionnel, quoi. Même dans la vie privée.
Oui, ça c'est sûr. Ouais. Même pour chercher un travail, c'est dur, c'est compliqué. Ah oui. J'ai trouvé beaucoup de difficultés pour, parce que j'ai déposé mes CV partout, mais c'était pas, c'était compliqué pour avoir
un entretien.
Un entretien, ouais.
Ne serait-ce qu'un entretien.
Oui, c'est ça. Ouais.
Là, c'est au-delà du quartier. C'est vraiment propre à la société française actuellement là.
Oui, mais le quartier, c'est amplifié.
Ça rajoute
c'est
un truc complet.
C'est très amplifié. Ne serait-ce que l'adresse, quoi. L'adresse sur un CV, si elle est répertoriée à un quartier, on sait très bien que hop, le CV ne va même pas être lu.
Ouais.
Si en plus tu rajoutes la photo et le nom de famille à consonance, voilà. Je ne sais même pas s'il apparaît sur la boîte mail. Il va y avoir, tu sais, des filtres. ChatGPT, tu sais.
Je vais lui demander si...
Non, mais oui, et puis en... Un des trucs que moi je trouve important et que les habitants de quartier ils ont moins la possibilité, c'est ce droit à l'erreur en fait.
Ouais.
Et les jeunes, ils n'ont pas le droit à l'erreur. S'ils se trompent, s'ils font une bêtise, comme tu disais, tout de suite on est enfermé dans un délinquant et c'est pas lui qui est seul délinquant.
Ah ouais.
C'est toute sa communauté qui est délinquant.
Exactement.
C'est derrière. Tout le monde. Et les mamans, c'est pareil, ou les parents, c'est pareil. S'ils se trompent ou s'ils ont une difficulté avec leurs enfants, ils ne vont pas pouvoir dire sereinement je me suis trompée ou assumer l'erreur pour la rectifier. Non, parce qu'en fait, tout de suite, on vient porter quelque chose de. Pointer du doigt, et pas que la famille, on vient pointer du doigt l'ensemble de du quartier, l'ensemble de la communauté, l'ensemble des musulmans si la personne est musulmane, l'ensemble des... Bon bref, donc c'est tout de suite, on représente plus que soi-même, donc c'est difficile de se tromper. Et c'est pour ça que nous, à l'asso, une des choses que j'essaye de faire comprendre des fois à d'autres professionnels, c'est que nous, il y a cette possibilité de droit à l'erreur où en fait on va juste dire on fait tous et toutes des erreurs, mais on se le dit t'as fait une erreur, c'est moi Lisa qui a fait une erreur et pas c'est pas un ensemble de personnes. Et du coup le sur le code de la route, c'est quand ça fait un lien, c'est que les habitantes, elles peuvent se permettre de se dire là j'y arrive pas, mais ça veut pas dire que je vais pas y arriver tout le temps. Et
exactement.
حرحركم انا مين بكيكم انا مين صيركم انا يا وين اللي نخرج فيكم